Costume en tweed, monocle au veston souple du Dupont, smart en pleine jungle, inquiétant au manoir. Sean Connery est mort. Isabelle Souquet, dans un instant, retrace la carrière d'une légende. L'entretien d'Emmanuel Macron à la télévision Al Jazeera, le chef de l'État français dénonce des manipulations de ses propos sur les caricatures de Mahomet et dénonce également le comportement belliqueux de Recep Tayyip Erdogan, extrait de cet entretien dans ce journal. La pandémie, reportage à Bangalore en Inde où les plus pauvres refusent d'être testés de peur d'être placés en quarantaine. Enfin, nous serons en Pennsylvanie, aux États-Unis, où le candidat Donald Trump multiplie les meetings à 3 jours de la présidentielle. Dans « À la poursuite d'Octobre rouge » de John McTiernan, Sean Connery incarne Marco Ramius, un vétéran de la marine qui décide de rallier l'Ouest aux commandes du dernier fleuron soviétique en pleine guerre froide. Il fait montre dans ce rôle de l'élégante maîtrise qui le conduira au sommet, lui le gentleman écossais, qui aura même su prendre congé de James Bond. Bonsoir Isabelle Souquet.
Bonsoir.
Prendre congé de James Bond, quelle classe !
Une classe sûrement innée, Mathieu, puisque Sean Connery naît en 1930 dans une banlieue très pauvre d'Édimbourg. Il quitte l'école à 16 ans, s'engage dans la marine où il restera 3 ans. Il enchaîne ensuite les petits boulots, maître nageur, maçon, routier ou garde du corps. Il s'était aussi lancé dans le culturisme. Sa première expérience sur les planches sera peut-être d'arriver 3e sur le podium de Mister Univers. À 27 ans, repéré dans un téléfilm pour la BBC, il signe avec la 20th Century Fox et tourne dans le premier James Bond, Dr. No. Flegme, charisme, plastique et sourcils en accent circonflexe, il explose à l'écran. Il incarnera 7 fois un rôle dont il va finir par se lasser, comme souligne le spécialiste de James Bond, Guillaume Evin.
Pour Sean Connery, ça a été compliqué parce que c'est à la fois le rôle qui a fait sa gloire, celui grâce auquel il a accédé au rang de star, et qui donc lui a ouvert toutes les portes, mais c'est aussi un rôle qui commençait à l'enfermer. Et justement, il a voulu desserrer le carcan, et il y a très très bien réussi, que ce soit l'homme qui voulut être roi fabuleux de John Huston, ou le lion et le vent, un pont trop loin, et puis évidemment Highlander, les incorruptibles, le nom de la rose, voilà. Il a eu véritablement une seconde carrière, là où les autres interprètes de 007 n'ont pas aussi bien réussi que lui.
Jean-Jacques Hano rapporte d'ailleurs que pour le nom de la rose, il ne voulait pas de lui, mais il dit aussi qu'il a craqué parce qu'il a eu la chair de poule quand Sean Connery s'est mis à lire le script à voix haute. L'homme consacré à 60 ans, l'homme le plus sexy du monde par le magazine People, était aussi un farouche défenseur de l'autonomie de l'Écosse, on le sait, tatoué au bras « Scotland Forever ». Et quand la reine d'Angleterre a voulu l'anoblir, le futur Sir Sean Connery s'est présenté à elle vêtu d'un kilt taillé dans le tartan vert et noir du clan MacLeod, le clan de sa mère.
Merci à vous Isabelle Souquet. Le contre-discours d'Emmanuel Macron à Al Jazeera, un entretien qui est sur le point d'être diffusé. Le chef de l'État a donné donc ce long entretien à la chaîne de télévision après qu'au Bangladesh, au Pakistan et dans une moindre mesure au Maghreb, des dizaines de milliers de personnes, au-delà des recrues des formations islamistes, ont conspué ses propos sur la liberté de caricaturer. Emmanuel Macron s'est également livré à une explication de texte, notamment de celui qu'il a livré il y a 2 semaines après la décapitation du professeur Samuel Paty. Emmanuel Macron.
Mais il y a 2 choses que je ne peux pas accepter. La première, c'est la confusion qui a été entretenue par beaucoup de médias, parfois des dirigeants politiques et religieux, qui consisterait à dire que ces caricatures sont en quelque sorte le projet ou l'émanation du gouvernement français ou du président de la République. Non. Moi, je suis là pour préserver ce droit et je le préserverai toujours. Mais il y a des gens qui l'exercent, c'est ainsi. Et la deuxième, c'est qu'on puisse justifier, de manière directe ou indirecte, quelques violences au nom de cette réaction. Je ne suis pas spécialiste de théologie, mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelques violences que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures.
Voilà Emmanuel Macron, extrait d'un entretien à venir dans quelques minutes sur la télévision qatari Al Jazeera. Accès de haine à l'encontre de l'exécutif français à l'étranger et climat très détérioré intramuros. Intervention en ce moment même des forces de sécurité dans le 7e arrondissement de Lyon. Un prêtre orthodoxe était blessé par balle au moment où il fermait les portes de l'église. Son agresseur, armé d'un fusil à canon scié, est toujours en fuite. Pas d'autres informations à l'heure qu'il est. En ce deuxième jour de reconfinement à Perpignan, Dijon, Beaune, Brive, Valence et dans d'autres communes plus rurales, des élus locaux ont décidé de prendre des arrêtés pour permettre à leurs commerces de proximité de rester ouverts. Ces arrêtés illégaux sont des signaux lancés par les territoires pour dénoncer, je cite, les inégalités face à la grande distribution, cibler le pouvoir central macronien et parisien. C'est l'analyse de Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille.
L'action des maires, elle obéit à une logique assez simple. Ces élus sont en proximité avec les habitants, notamment les commerçants, qui sont une clientèle électorale, un segment électoral assez important, souvent au niveau local. En fait, cette réaction des élus locaux, il faut l'interpréter comme une réaction un peu parfois obligée de défense des habitants et d'un commerce local qui, par ailleurs, est de plus en plus affaibli aujourd'hui dans les villes moyennes, dans les villes-centres, au nom d'une logique de localiste. Et donc, effectivement, qui est renforcée aussi par le fait que c'est le deuxième confinement, qui a un relatif flou autour des règles du jeu, qui crée du coup des lézardes un petit peu dans lesquelles ces élus locaux se sont introduits pour contester les décisions du gouvernement. Il y a aussi une logique de défense du commerce contre les grandes enseignes, d'injustice, et puis effectivement, il y a aussi cette logique d'opposition au pouvoir central. Le risque, c'est que ça peut ébrécher le consensus dans la population sur cette question du confinement. C'est un signal qu'il faut prendre en compte parce que aujourd'hui, le gouvernement peut se retrouver débordé par une situation où les règles qu'il a édictées ne sont pas appliquées. Et si elles sont en plus transgressées par des représentants du pouvoir local, ça pourrait inciter d'autres contestations à se développer. Donc je pense que le gouvernement doit regarder ça avec une certaine fébrilité parce que ça peut annoncer une contestation plus large du reconfinement.
Le politologue Rémi Lefebvre, sollicité par Adrien Palluet. La liste des pays ayant franchi le pas du reconfinement partiel ou total pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus s'allonge en Europe, en Grèce. Les autorités annoncent ce samedi un confinement partiel à partir de mardi, avec un couvre-feu nocturne et la fermeture pendant un mois des bars, restaurants et salles de sport. A contrario, en Inde, la pandémie semble ralentir. Mais que sait-on vraiment de la situation? À Bangalore, les plus pauvres refusent d'être testés par peur d'être envoyés en quarantaine. C'est un reportage auprès d'une ONG de Combastin.
Le long de la grande artère du bidonville de Banaswadi, elles sont six volontaires de l'ONG Fedina à proposer des tests Covid gratuits. Pourtant, les habitants passent, mais ne s'arrêtent pas. Une bénévole désespère.
On nous regarde en chien de faïence, j'ai l'impression d'être un démon.
Buvant son thé à quelques mètres du stand de l'ONG, un ouvrier du bâtiment s'explique.
Pourquoi irais-je me faire dépister alors que je n'ai plus de symptômes? On va m'enfermer en quarantaine et je ne pourrai plus nourrir ma famille.
À 28 ans, Shoba gère les volontaires de l'ONG. Elle essaye de rassurer la population locale.
Nous faisons du porte-à-porte, nous expliquons que la quarantaine peut être faite à domicile et que des rations de lentilles leur seront fournies.
Un peu plus loin, Shoba accompagne une maraude qui procède à de simples prises de température. Mais les habitants mentent sur leurs coordonnées pour y échapper. Pour la docteure Sylvia Carpagam, qui travaille auprès des communautés défavorisées, le gouvernement doit d'abord éduquer la population face au virus.
La crainte des tests existe partout dans la ville, mais le gouvernement laisse la société civile gérer le problème seul.
La ville de Bangalore a ouvert des centres de tests gratuits pour ses 12 000 d'habitants. Encore faut-il qu'ils s'y rendent.
Lui s'emploie à nier l'évidence. Les États-Unis sont pourtant sévèrement touchés par la pandémie. Donald Trump enchaîne meeting sur meeting, 4 dans la journée en Pennsylvanie. État déterminant aux yeux de son équipe de campagne. Mathilde Demy, vous êtes en Pennsylvanie, à Pittsburgh, où vous suivez justement la campagne du président Trump.
Donald Trump passe désormais à 4 meetings par jour, voire même 5 si on compte Melania, sa femme, qui tiendra meeting toute seule aujourd'hui, également en Pennsylvanie. C'est dire l'attention portée par l'équipe de campagne de Trump à cet État. Il y a 20 grands électeurs à remporter ici, c'est beaucoup. Et en 2016, Donald Trump avait raflé la mise de cette terre historiquement démocrate avec seulement 44 000 voix d'avance. Pour cela, il veut convaincre en priorité les hommes blancs de la classe ouvrière et rurale, ceux qui lui sont plutôt favorables mais n'ont pas toujours voté il y a 4 ans. L'étape de Butler au nord de Pittsburgh où nous nous trouvons est elle aussi cruciale car Donald Trump devrait aborder la fracturation hydraulique du gaz de schiste. Beaucoup y ont cru ici, mais la demande n'a pas suivi l'offre. Les prix se sont effondrés, faisant des déçus. Trump aime appuyer là où ça fait mal. La fracture au sein des démocrates entre préserver ses emplois industriels et réagir à cause des dégâts sanitaires et environnementaux. Joe Biden n'est pas le plus à l'aise sur cette question et Donald Trump compte bien en profiter.
Le temps de demain dimanche, passagèrement pluvieux et venteux sur la moitié nord du pays et plus calme au sud. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto, à la technique Audrey Guélil. Quelle commission ?
Mr.
Bond. James Bond.
Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit?
I have no objection.